Le Seigneur est bon, n'est-ce pas? Je vais vous parler du royaume de Dieu. C'est son onction qui vient. Voilà. Voilà, donc pour ce matin, j'ai la joie de vous partager, de vous proposer de prendre de la hauteur. Et tout à l'heure, dans les temps de prière, il y avait cette idée, c'est Marie-Christine, je crois, qui parlait de cette nécessité de prendre de la hauteur. Et en fait, c'est ce mot « royaume de Dieu », royaume qui vient dans mon cœur. Bientôt vient l'été, on a eu une année bien bien pleine, et je pense qu'il est temps de monter sur les hauteurs et de revoir la large image. Vous savez que notre mission d'église, je la rappelle, hein, on devrait la connaître par cœur, mais c'est une famille, donc on le voit bien, on prie les uns pour les autres, on se soutient, on s'aime. Une famille qui célèbre la présence de Dieu, premier ministère, l'adoration. C'est pour ça que on prend du temps dans les cultes pour adorer le Seigneur, rentrer dans sa présence. On prend le temps qu'il faut, mais nous, c'est notre premier mandat de célébrer. Et puis, manifester son amour, et puis aussi incarner son royaume. Donc, c'est cette dernière phase, incarner son royaume, quelques mots. Vous savez que, comme Jésus a dit, hein, cherchez d'abord le royaume de Dieu. Donc aujourd'hui, où est-ce qu'on en est? Cherchez d'abord le royaume de Dieu. Et toutes choses vous seront données en plus. Matthieu 6, 33. Cherchez d'abord. Alors, c'est quoi ce royaume? Et où on en est avec ce royaume? Vous savez que dans le Nouveau Testament, on trouve plus de 100 fois les versets qui parlent du royaume de Dieu. Donc au niveau de la thématique, c'est essentiel. C'est le thème biblique en fait, c'est le grand thème, le royaume de Dieu. Et juste, il y a un homme, c'est M. John Stott, qui disait, il résume bien, mais je crois que c'est en tant qu'église, puisque nous sommes appelés à incarner ce royaume, il faut avoir les bonnes définitions. Hein. En voilà une, le royaume de Dieu représente le règne souverain et dynamique du Seigneur, faisant irruption dans l'histoire des hommes, par Jésus. S'opposant en Baal et combattant et en remportant la victoire sur lui. Et Dieu offre ainsi un profond bien-être personnel, communautaire à son peuple. Donc voyez l'irruption dans l'histoire des hommes de Dieu qui amène son règne, qui combat le mal, qui le vainc, qui apporte la victoire et qui amène ainsi la paix et le shalom. Alors cette grande image, quand on parle du royaume de Dieu, par exemple Gebwiller, là, nous sommes dans un réfectoire, c'est difficile d'avoir l'image globale de Gebwiller. Moi, je vous conseille, ceux qui l'ont jamais fait, d'aller vous promener donc là-haut, au-dessus, et à ce qu'on appelle la croix de mission, pour avoir la vision globale. D'ailleurs, c'est intéressant, le nom croix de mission, eh bien, quand on va sur les hauteurs, on a l'appel de Dieu de la mission. Parce qu'on voit, on voit les nations, on voit la région, on voit la ville, donc on voit au-delà. Donc, la vision, le royaume de Dieu, c'est avoir la vision globale, monter plus haut. Et on ne peut pas nous oublier, vous savez dans Éphésiens, il est dit ceci, il nous a ressuscités ensemble, alors tous ensemble. Il nous avait asseoir ensemble, dans les lieux célestes, en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous. En Jésus-Christ. Donc, le ensemble dans les lieux célestes, c'est aussi, bien sûr, ça parle d'autorité, ça parle aussi de perspective, large perspective. La perspective, les lieux célestes, ça nous permet de voir le monde, notre planète, notre monde. Notre position élevée, donc c'est la large perspective aussi. Donc, incarner le royaume de Dieu, voyez, cette mission que nous avons tous, communautaire et individuel, ça demande régulièrement de monter. Ça demande régulièrement d'avoir cette position de hauteur et ça parle aussi d'unité ensemble dans les lieux célestes. Voilà. Et afin de montrer la richesse de sa grâce. Alors, cette croix de mission, certains, j'en avais déjà parlé, mais il y a un petit chemin qui monte à la croix de mission, une petite route au début, et ce chemin s'appelle le chemin de Quitterlé. Quitterlé. Alors, Quitterlé, parce que c'est un monsieur Cutter, aux raisons de sa petite taille, Quitterlé, donc Quitterlé, hein, alsacien, donc le petit Cutter, en fait. Et donc, il avait acheté ce terrain là qui était c'était un terrain, c'était une forêt, c'était il y avait rien. Il a tout arraché, il a enlevé les pierres et il a bâti une vigne. Et donc la vigne que nous avons là, c'est un petit monsieur Kitterley, qui a eu la vision d'enlever les pierres, de tout arracher, de planter une vigne qui existe jusqu'à aujourd'hui. Et moi je trouve que cette alliance entre une croix de mission, une hauteur, et le fait aussi de planter une vigne, nous parle de quelque chose du royaume de Dieu. Et ce royaume de Dieu, avoir la vision globale, et Dieu nous a tous appelés ici à être cette vigne, à la planter aussi. Nous sommes, l'Église est appelée la vigne du Seigneur. Donc on est appelé à faire du vin. C'est pour ça qu'il y a des pressions parfois, parce qu'on est parfois dans le pressoir, pour qu'il y ait du bon vin qui sorte. Donc vous voyez, l'Église, elle n'est pas appelée à vivre pour elle-même, bien entendu, on le sait, mais sinon on tourne en rond. Mais elle est appelée un agent du royaume. Parce que le projet de Dieu, eh bien, c'est le monde. C'est bien plus grand que simplement, bien sûr, l'Église. Alors, dans les Écritures, il y a souvent l'expression qui revient, la bonne nouvelle du royaume. Et souvent, on peut confondre, on pense que la bonne nouvelle, c'est la bonne nouvelle de l'Évangile. Mais ça, c'est un pléonasme. La bonne nouvelle, ça veut dire Évangile. Donc, la bonne nouvelle, c'est l'évangile du royaume. Vous voyez, c'est ça la bonne nouvelle. Jésus, quand il est dit qu'il parcourait la Galilée, par exemple Matthieu 4, un des versets, hein, il enseignait dans les synagogues, il prêchait la bonne nouvelle du royaume. Vous voyez, en guérissant toute maladie, toute infirmité parmi son peuple. Donc, ne confondons pas évangile et évangile du royaume. Et donc, cet évangile du royaume, cette bonne nouvelle que Jésus a annoncée, c'est la bonne nouvelle du royaume. Et donc, le salut, notre salut, quand on a rencontré le Seigneur, le salut, en fait, c'est le moyen d'entrer dans le royaume. Mais on n'est pas appelé à vivre à la porte. Donc, il y en a, on pourrait tenter de se contenter du salut. Merci Seigneur pour mon salut. Mais le salut, la Bible dit, c'est la porte d'entrée. Donc, la porte d'entrée du royaume. Si vous ne naissez de nouveau, vous ne pouvez entrer dans le royaume. Donc le but, c'est pas le salut. Le but, c'est le royaume. Et donc, nous sommes sauvés pour le royaume. Nous sommes sauvés pour passer par la porte et aller dans ce royaume, avoir un rôle dans ce royaume. Alors le royaume, parfois, on peut dire, c'est quelque chose de futur. Alors le royaume viendra, un jour Jésus régnera, etc. Et c'est vrai qu'il y a une dimension du futur, voyez. Mais le danger avec cette position où on voit le royaume que comme dimension future, c'est qu'on peut attendre. On peut attendre longtemps. On attend que ça se passe, voyez. Ah ben Dieu, s'il fait pas ça, il fait pas ça, etc. On ne se sent pas responsable. Mais le royaume, Jésus dit dans Luc 17... Les pharisiens demandèrent à Jésus, quand viendrait le royaume de Dieu? Il leur répondit, le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. On ne dira point, il est ici, il est là, car voici, le royaume de Dieu est au milieu de vous. Il ne frappe jamais les regards. Et moi je crois vraiment, ce que Dieu fait dans nos vies, dans notre assemblée, ne frappe pas les regards. Et les choses de Dieu ne frappent jamais les regards. Ça commence petit. Ça commence à l'intérieur. Et puis c'est pour ça que Dieu nous dit, cherche d'abord le royaume. Donc, ne te contente pas du salut, mais cherche le royaume. C'est un commandement, c'est un des premiers de Jésus, quoi. Donc nous avons la responsabilité de chercher ce royaume, et il est déjà au milieu de vous, dit Jésus. Alors, on est appelé à s'engager dans cette recherche. Alors, le mot royaume, vous savez, c'est le mot basiléa, qu'on traduit par royaume. C'est aussi le même mot qu'on peut traduire par règne. Donc, le royaume, c'est le règne. Quand on prie le Notre Père, que ton règne vienne, c'est basiléa, que ton règne vienne. Alors, nous, quand on pense à royaume, on a l'image d'histoire de France, hein, les rois, la cour du roi, le château, le pays avec des frontières, etc. Et comme si c'était pas encore arrivé sur terre, voyez, le royaume, ben, ça viendra. Parce qu'on a cette image d'un royaume de France, voyez. Mais le règne a déjà commencé, nous dit Jésus. C'est ça qui parfois on a du mal. Il a déjà commencé, et ce que Dieu a commencé, il va l'achever. Donc, il y a eu cette croix qu'on a célébrée tout à l'heure, c'est une intrusion du royaume de Dieu sur la terre, et qui va pas dégager de la terre, qui va petit à petit prendre cette terre. Alors, c'est le règne, c'est un règne dans les cieux et sur la terre. Et c'est Dieu qui a prévu qu'il y ait ces deux grandes sphères, la sphère spirituelle, la sphère matérielle, et Jésus est venu pour réconcilier ces deux sphères. Donc la Bible dit, les cieux sont à lui, c'est la Bible qui dit ça, et la terre, il l'a donnée à l'homme. Voilà, c'est son plan, il a donné la terre à l'homme. Alors on sait tous que, on se rappelle que l'homme a eu cette autorité sur la terre de la gérer. Et puis, vous savez, le péché est venu, il a perdu cette autorité. Et donc, Jésus est venu pour reprendre et redonner à son Église cette autorité pour gérer et gouverner la terre. Donc, la mort de Jésus, ce qu'on a fêté là, le sang et le pain et le vin qu'on prend, c'est pas seulement pour se rappeler le salut qu'il nous a offert. C'est aussi pour nous rappeler que nous sommes appelés à être des agents dans ce royaume et à reprendre ce gouvernement dans la partie qu'il nous donne, mais gouverner avec lui. Donc, si nous prenons le pain et le vin, c'est que nous comprenons que nous sommes appelés à gouverner avec lui. Et donc, ça, c'est la mentalité du royaume. Vous savez, nous sommes ici dans un lieu, c'est un lieu, le réfectoire du collège Daniel, ça aurait été impossible si un jour, il n'y avait pas eu la vision que le royaume de Dieu, c'était pas seulement l'église, mais c'était aussi l'école. Par exemple, nous ne serions pas là aujourd'hui. Il n'y aurait pas ce château, il n'y aurait pas cette œuvre. La vision du royaume de Dieu, c'est bien plus donc que l'église. C'est le monde, c'est tout le champ. Et une fois qu'on a cette vision, on cherche le royaume, on a cette vision, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, on va être acteur dans cette vision. Et les choses vont changer, concrètement. Donc c'est pourtant tellement important. Donc le royaume est au milieu de vous, parce que celui qui est venu, l'homme parfait, le Dieu-homme Jésus, il a pris ce gouvernement à nouveau, que Adam avait perdu. Et il nous le donne, il nous le confie avec nous. Nous sommes appelés avec le nouvel Adam à gouverner et à avoir cette autorité. Donc autorité spirituelle dans les hauteurs, assis dans les lieux célestes, mais aussi mandat de Dieu pour que son royaume vienne et que la prière que ton règne vienne, nous soyons eh bien des instruments de réponse à cette prière du Notre Père. Il a dépouillé les dominations, Colossiens 2, les autorités, les a livrées publiquement en spectacle, en triomphé d'elles par la croix. Donc, s'il n'était que mort sur la croix, Jésus, eh bien, on ne serait jamais rentré dans le royaume. Mais Jésus n'est pas seulement mort, il est ressuscité, il envoie son esprit, c'est Shavuot, ça nous parle de son royaume, il nous a équipés pour ce royaume. Dans Ésaïe 61, vous avez l'esprit de Dieu est sur nous, hein, pour libérer les captifs, ouvrir les yeux des aveugles, donc c'est ce que Jésus faisait, c'est ce que nous sommes appelés à prier, la guérison, etc. Mais ensuite, il est dit, verset 4, pour rebâtir les fondements, les villes, etc. Et ça, c'est la dimension du royaume. Donc, nous sommes un peuple de Dieu, et lorsqu'il est dit que nous sommes appelés à être des agents du royaume, c'est vraiment important. Nous sommes appelés en fait à régner. Et j'aimerais qu'on répète cette phrase, peut-être vous dites avec moi, je suis appelé à régner aujourd'hui. Hein, allez-y, je suis appelé à régner aujourd'hui. Dans Romains 5, verset 17, il est dit, par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul. À plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie? Et j'invente pas. Régneront-ils dans la vie? Ça c'est Romains 5, 17. On a reçu la grâce, c'est pour régner dans la vie par Jésus-Christ. Donc la vie c'est maintenant, c'est aujourd'hui. Et vous savez, nous sommes dans un lieu qui s'appelle l'établissement Daniel. Daniel, c'est un prophète. Et Daniel avait une vision du royaume. Et dans Daniel 7, il est dit ceci, c'est extraordinaire. C'est, je regardais pendant mes visions nocturnes. C'est un gars de vision. Quand nous sommes ici, nous prions que ce nom qui est attaché à Collège Daniel, établissement Daniel, s'incarne dans chaque enfant, dans chaque ministère, dans chaque enseignant. Il avait des visions nocturnes. Voilà. Et voici, sur les nuées des cieux arriva quelqu'un semblable à un fils de l'homme. Il s'avança vers l'ancien des jours. On le fit approcher de lui. On lui donna la domination, la gloire, le règne. Et tous les peuples, les nations, les hommes de toutes les langues le servirent. Et sa domination est une domination éternelle qui ne passera point. Et son règne ne sera jamais détruit. Ça, c'est Daniel qui a vu ça. Mais les saints, il a vu les saints, il vous a vu vous. Les saints du Très-Haut. C'est un beau ministère, ça. Je suis un saint du Très-Haut. Waouh. Les saints du Très-Haut recevront le royaume et ils posséderont le royaume éternellement, d'éternité en éternité. Lorsque Jésus est venu, l'éternité a touché le monde. Lorsque tu es né de nouveau, l'éternité a touché ton cœur et ta vie. Et ça sera jamais détruit. Et donc, nous sommes appelés les saints du Très-Haut, qui avons reçu le royaume. C'est pour ça que l'apôtre Paul, souvent, il prie. Mais je prie que les yeux de vos cœurs soient illuminés pour que vous voyez la grandeur de votre héritage. Pas seulement la grandeur de Dieu, mais la grandeur de votre héritage. Les deux en même temps. Et donc, le royaume de Dieu, ça commence toujours petit. C'est une petite graine de sénevée. Cette petite graine qui frappe pas les regards. C'est le principe de la vie. C'est toujours des semences qui, au début, semblent minuscules. Mais Dieu nous rappelle que c'est comme le cheval de Troie. Hein, vous avez les soldats grecs qui sont dans la ville de Troie, cachés dans le cheval, et à l'intérieur du cheval, ping, ils prennent la ville. Nous sommes des chevaux de Troie, c'est ça, agents du royaume, là où il nous a mis, et le jour où on sort du cheval, on prend la ville, on prend les villes. C'est pas prendre les dominations, mais c'est servir, c'est changer les atmosphères. C'est notre responsabilité. Donc le royaume de Dieu, ça va toujours de l'intérieur à l'extérieur. Et en fait, Dieu voudrait nous ensemencer à nouveau de la vision du royaume. À nouveau. Donc souvent, on est dans le journalier, dans le combat, la santé, etc. Et de temps en temps, Dieu dit, monte, petit quitterlé, plante ta vigne, arrache les pierres, et ça va durer des millénaires. Ce petit quitterlé jamais n'aurait pensé qu'aujourd'hui encore il y ait cette vigne et qu'on boive encore son vin. Le petit quitterlé. Nous sommes des petits quitterlés, des petits quitterlés. Et nous sommes appelés à planter des vignes, arracher les mauvaises herbes et faire que ce monde soit un jardin. Tout à l'heure dans la Sainte Seine, j'avais ce passage, vous savez, tout dans son palais s'écrit gloire. Donc Jésus, il était dans ce palais de gloire. Et puis Dieu lui a dit, maintenant tu vas descendre. Il est descendu, il a laissé la gloire. Mais il a laissé la gloire pour faire quoi? Pour la mener aussi. Parce qu'un jour, la gloire de Dieu couvrira toute cette terre. C'est ce que les prophètes ont vu, ont dit du début de la fin de la... Donc nous sommes appelés à... Il est descendu pour que cette gloire se manifeste. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Donc tout ce qui était dans son palais est appelé à se déverser dans son grand palais. La vision du royaume, c'est la vision du grand palais. Et le grand palais, c'est le monde. Alors, le monde entier. Matthieu 13, une petite parabole. Donc, verset 24 et suivant. Jésus leur proposa cette parabole. Et il dit, le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivraie parmi le blé et s'en alla. Et lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Les serviteurs du maître de la moisson, de la maison, vinrent lui dire, Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie? Il leur répondit, c'est l'ennemi qui a fait ça. Et les serviteurs lui dirent, veux-tu que nous allions l'arracher? Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez en même temps le blé. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. À l'époque de la moisson, je dirai au moissonneur, arrachez d'abord l'ivraie et liez-la en gerbe pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. Donc là, les disciples commencent à recevoir cette parabole, ils n'y comprennent pas grand-chose, mais qu'est-ce qu'ils ont fait tout de suite? Eh bien, ils ont cherché, ils sont restés pour écouter Jésus, ce qu'il avait à dire de l'interprétation de cette parabole. Donc Jésus continue, donc nous sommes tous des chercheurs aussi de la parole. Ne laissons pas tomber ces paroles en terre, cherchons, demandons au Seigneur d'éclairer sa parole. Shavuot, c'est le temps de la parole aussi. Et donc Jésus continue, alors il renvoya la foule Il entra dans la maison et ses disciples s'approchèrent de lui. Donc voilà les disciples dans la maison avec Jésus. Explique-nous la parabole du livret du champ. Il répondit, celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme. Le champ, c'est le monde. La bonne semence, ce sont les fils du royaume. L'ivraie, ce sont les fils du malin. L'ennemi qui l'a semé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. Or, comme on arrache l'ivraie et qu'on la jette au feu, il en sera de même à la fin du monde. Les fils de l'homme, le Fils de l'homme enverra des anges. Ils arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité. Et ils jetteront dans la fournaise ardente où il y aura des pleurs, des grincements de dents. Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Les justes resplendiront. Donc ça, c'est notre destinée à tous. C'est notre destinée à tous. Les justes resplendiront. Et dans cette parabole, il y a le processus qui nous parle de la croissance du royaume. Nous, on aurait pensé que celui qui sème, c'est l'évangéliste. Ou c'est l'église. On est appelé à semer la parole. La Bible dit non, non. Dieu, il sème, en fait, dans le monde, il sème quoi? Il sème des fils. Il sème des fils et des filles. En fait, nous sommes les semences du royaume. Nous sommes les semences du royaume dans ce monde. Parce que nous sommes fils et filles de Dieu. Dieu sème des fils et des filles. Et c'est ça. Tu es une semence. Tu as été planté dans ce monde pour porter du fruit du royaume. Donc c'est ça. Et le champ, vous voyez, Jésus l'a dit, le champ c'est quoi? C'est le monde. Donc c'est le cosmos, c'est le monde entier. Et il y a plus que des humains dans le monde. Il y a toute la création. Donc, nous sommes plantés dans cette création comme fils et filles, parce que chaque fois qu'il y a un problème quelque part, Dieu a toujours envoyé des fils et des filles. Il ne changera pas. Il l'a fait pour son propre fils. Il continue à le faire aujourd'hui. En politique, dans tous les domaines, Dieu veut envoyer des fils et des filles. Donc, dans le champ de l'éducation, dans le champ de l'économie, dans le champ de l'agriculture, il envoie des fils et des filles. C'est comme ça que le royaume avance. Avec des fils du royaume. Donc, le royaume, c'est de l'identité. C'est pour ça que c'est tellement important d'être une famille. Parce que, comment voulez-vous que des fils et des filles se lèvent si c'est pas dans une famille? Il faut des pères et des mères pour qu'il y ait des fils et des filles. Donc, il faut des pères et des mères dans l'éducation, il faut des pères et des mères dans les familles, il faut l'esprit du père pour lever des fils et des filles. Et c'est ça que, donc, ensuite, on a l'impression, quand on lit ce texte, que il y en a qui pensent que Dieu va détruire le monde, tout détruire. Mais la fin du monde, la fin des temps, c'est le mot aïon, c'est la fin d'un temps, c'est-à-dire de ce siècle présent. C'est la fin de ce siècle présent. C'est-à-dire qu'il y a l'irruption du siècle à venir dans ce monde aujourd'hui qui va balayer tout ce qui fait tenir le siècle présent. Comme idolâtrie, comme mal, etc. Donc c'est la fin de ce temps-là. Et la fin de ce temps-là a déjà commencé avec la résurrection de Jésus. La fin de ce temps-là a déjà commencé. Et donc nous sommes dans une époque où Dieu est en train d'étendre son royaume. Il y a ce combat, on le voit, il y a l'ivraie, il y a tout ça. Mais nous sommes dans ce processus où le royaume de Dieu est déjà là. Et comme Daniel l'a vu, il va s'étendre. Alors ça se fait dans les douleurs parfois. Ça se fait dans les ébranlements. Dieu ébranle toutes choses, bien sûr. Mais c'est ça. Donc c'est pas la fin du monde, c'est la fin d'un monde dominé par l'ennemi. Et ça, c'est fini. Ce monde-là est terminé à la résurrection de Jésus. Donc nous sommes, en tant qu'Église, appelés à prendre ce rôle de dominer. Ça se fait dans la sacrificature, l'intercession, mais aussi dans le fait de marcher et de prendre ces terrains parce qu'on a la vision du royaume. Donc c'est la fin de cette domination de l'ennemi. Ça, c'est la bonne nouvelle de l'Évangile. Et la bonne nouvelle du royaume, c'est que ça nous ouvre la porte pour le monde. Et donc les ténèbres, Ésaïe 8, ne régneront pas toujours sur cette terre. C'est les fils du royaume qui sont appelés à régner. Alors, les fils du royaume, donc la bonne semence, c'est les fils du royaume. Et ces fils du royaume, eh bien, nous sommes les fils et filles du royaume. Peut-être la deuxième phrase qu'on pourrait dire ensemble ce matin, si vous rappelez la première déjà. Je suis un fils, fille du royaume. Allez, je suis un fils du royaume. Amen, amen. Donc voilà, l'église, c'est le lieu d'équipement en fait, pour être utile dans le monde. Donc c'est ça le rôle de l'église. Et je bénis le Seigneur pour chacun d'entre vous, là où vous êtes, dans les crèches, dans l'école, dans vos travaux respectifs, dans vos champs, vous êtes fils et filles du royaume pour transformer, le monde là où vous êtes, pour être ces petits quiterlés qui allaient enlever les pierres là où vous êtes. Enlever les pierres et planter une vigne, être ce bon raisin et ce bon vin. Jésus dit dans Jean 17, et je termine bientôt, vous savez lorsqu'il dit là cette prière, je leur ai donné ta parole, le monde les a haïs parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi je suis pas du monde, et là c'est pas cosmos, hein. Mais je te prie de les ôter du monde, du système de ce monde, les préserver du mal, ils ne sont pas du monde comme moi je suis pas du monde, sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité, et là, écoutez ça maintenant, comme tu m'as envoyé dans le monde, dans c'est cosmos toujours là, eh bien je les ai aussi envoyés dans le monde. Nous sommes envoyés dans le monde. Par rapport au projet de cette maison du tissage et tout ça, c'est vraiment par rapport à la destinée de cette église, à la dimension du royaume. C'est pas un lieu cultuel, c'est un lieu culturel, parce qu'on veut déborder de culte sur la culture. Nous sommes appelés, nous sommes envoyés dans le monde. Avec cette autorité, donc semence du royaume, et aussi appelés à gouverner, comme avec Jésus, le second Adam. Donc sur cette pierre, dans Matthieu 16, il est dit, sur cette pierre, il parle de la révélation de Jésus. Sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. C'est une des premières fois qu'on voit le mot église. Donc ça parle d'autorité, vous voyez. C'est pour ça que c'est tellement important l'intercession, la sacrificature. L'autorité, elle commence dans les lieux célestes, et ensuite ça va jusqu'à dans l'incarnation sur cette terre. Donc l'église, Jésus n'a pas dit que l'église était un lieu d'agape. Bien sûr qu'on fait des agapes. C'est bien. Mais c'est pas l'identité de l'église d'être un lieu d'agape simplement. L'église, c'est un lieu d'autorité. Un lieu d'autorité pour manifester le royaume de Dieu. Jésus bâtit son église et l'église s'occupe du royaume. Jésus bâtit son église et l'église s'occupe du royaume de Dieu. Il a donné les clés du royaume à Pierre. Les clés du royaume. C'est pas rien. Donc cette autorité s'exerce bien sûr dans l'unité. Et l'église donc n'est pas un lieu. C'est une conquête de quartier, de territoire, pour changer les atmosphères, pour amener l'espérance, pour amener le shalom de Dieu contre toutes les dominations qui tiennent et qui se battent aussi. Donc nous sommes appelés à pas être des fatalistes, des amis, mais être des agents du royaume. Je termine en lisant ce passage de notre réseau d'église qui s'appelle Réseau Nouvelle Connexion. Et c'est quelques phrases simplement. Écoutez, ça c'est assez dense, mais c'est notre ADN. Notre compréhension du royaume de Dieu, qui par ailleurs reste un mystère, il y a toujours une part de mystère, hein, se résume de la façon suivante. C'est l'impact transformateur de la présence et de la volonté, parole, principe de Dieu dans toute la réalité créée. 2. Cet impact va de l'individu à la création, en passant par les structures sociales, famille, ville, nation. La portée de rédemption accomplie par Jésus dépasse le salut individuel, mais s'étend à toute la création. 3. Cette vision oriente notre compréhension et notre pratique de l'Église. Notre relation au monde et notre vision du futur de manière positive. Et ça, quoi qu'il se passe au niveau élection, tout ça, tout ce bazar là, la vision positive, c'est ce qu'on appelle l'espérance. Quelqu'un dernièrement, j'ai eu un entretien, il me disait, mais là on perd espoir avec tout ce qui se passe, etc. au niveau de l'éducation, c'était là au niveau de l'éducation. Et puis je sentais que ça vacillait là, j'ai dit, mais avec un grand sourire, je ne feins pas. J'ai dit, moi, l'espérance qui est en moi, je sais ce que Dieu va faire, je sais ce qu'il va faire, je sais ce qu'il a promis. Je suis en paix. Il peut se passer n'importe quoi. Il peut y avoir même des fermetures d'écoles chrétiennes. C'est pas grave. Je sais ce que Dieu a dit. Et il va le faire. C'est assurant. C'est ce qu'on appelle l'espérance. On a vu l'avenir que Dieu a promis et on agit à partir de ce qu'on a vu, l'espérance. Donc c'est ça qui, pour la France, c'est pareil. Donc nous sommes un peuple de l'espérance. Les Juifs, ce qui caractérisait les Juifs, c'est un peuple d'espérance. Il a toujours espéré à Jérusalem l'année prochaine. Eh ben, ils y sont. Je veux dire, mais pendant 2000 ans, l'espérance. Donc, nous sommes un peuple d'espérance. Donc, cette vision oriente notre compréhension, notre pratique de l'Église. La vision du futur positive. Elle nourrit mon engagement spirituel en même temps que social, politique, économique, comme faisant partie intégrante de la vocation des chrétiens et de l'Église. Cette vision est caractérisée par l'espérance de la réalisation du projet rédempteur de Dieu dans l'histoire, tout en affirmant que seul le Christ, bien sûr, l'amènera à son accomplissement final. C'est pas nous. Nous, c'est une partie, mais c'est lui qui l'amène à l'accomplissement final. Et cette vision est caractérisée donc par cette espérance fondamentale jusqu'à l'avènement de son règne, le Maranatha, et de proclamer à travers la prédication l'enseignement de l'évangile auquel le Christ nous a appelés par tous les médias dont on dispose, et puis incarner à la suite de la venue de Jésus la parole faite chair afin de rendre visible et accessible la bonne nouvelle de l'amour de Dieu à toute l'humanité. Dans tous les actes de notre vie quotidienne, individuellement en tant qu'Église, dans toutes les œuvres que le Seigneur nous a préparées d'avance. Une fois prochaine, on parlera des œuvres du royaume. Mais là, je voulais rappeler le pourquoi nous sommes Église, le pourquoi Dieu nous a mis ensemble, le pourquoi Dieu nous a sauvés. Nous sommes appelés à régner avec lui dans cette vie. Et parce qu'on a reçu l'abondance de la grâce, on est appelé à libérer cette grâce. Seigneur, merci pour ce qui nous porte, Seigneur, la mission que tu nous as donnée. Nous sommes sauvés pour être des agents, des ambassadeurs du royaume. Merci pour cette bonne nouvelle du royaume. Merci, Seigneur, parce que les saints ont reçu le royaume et le possèdent d'éternité, pour toute éternité. Seigneur, merci pour ce que tu fais ici. Cette part du royaume de Dieu dans le monde de l'éducation, un signe aussi que tu es celui qui veut influencer, toucher, mettre le sel et la lumière dans tous les domaines, Seigneur. Alors Seigneur, ravive l'espérance en chacun de nous. Et Seigneur, que nous ne soyons pas des fatalistes, mais des gens qui gouvernons, qui changeons les atmosphères, des thermostats qui régulons la température et non pas des thermomètres qui enregistrons simplement. Seigneur, merci pour le mandat que tu nous as donné. Et nous te célébrons et nous te bénissons, Seigneur. Fortifie chacun, renouvelle l'espérance, renouvelle la foi et renouvelle l'amour. Au nom de Jésus. Amen.